Alors, donc il y a, si on enlève la, et si on prend en compte la parenthèse, il y a presque 28 ans de carrière pour Mercedes.
30 ans,
voilà.
Pour
des gens qui connaissent pas du tout le groupe, qui sont peut-être jeunes ou qui se rendent, voilà, qui découvrent, comment tu définirais le Mercedes 2016?
Bah, c'est un peu le Mercedes des débuts, tout simplement. Je pense qu'on est revenu à nos valeurs qu'on a eues dans les années 90, voire au début. Je pense qu'on a retrouvé un petit peu notre patte qu'on avait un petit peu perdue pendant longtemps. Et on est revenu vraiment aux fondamentaux du groupe, quoi. C'est-à-dire le côté intense, le côté violent, et puis avec la colère qu'il faut, même avec les années, quoi, même avec notre âge. On a voulu garder ça à l'esprit pour justement rester encore vif et faire comprendre certaines choses à des gens qui croyaient peut-être qu'on s'était ramolli, je pense, mais voilà quoi.
Et donc si on regarde un peu la carrière du groupe, effectivement il y a une chose qu'on peut dire, c'est que le groupe n'est pas resté stable, il n'y a pas stagné au niveau musical, il y a eu des évolutions quoi.
Il y a eu des évolutions,
il y a eu plus trash, il y a eu Cole qui est arrivé, il y a eu alors avec des succès,
complètement, enfin, ouais.
Le public a accroché ou pas accroché,
mais
a posteriori qu'il y a des éléments que tu regrettes ou c'est à fait partie du groupe?
Disons que regretter non, parce que la vie est ainsi faite, il ne faut pas regretter, au contraire on a eu...
Parce qu'on a eu l'impression que voilà, tout d'un coup il y a le groupe, voilà, au milieu de sa carrière, qui a connu un peu, qui avait le label, qui avait la distrie, enfin, et je sais pas, ça, le public a pas accroché ou c'était peut-être pas, les étoiles qui sont pas...
Je pense qu'à la base c'était une erreur due à beaucoup de facteurs, c'est-à-dire, je me justifie pas, voilà, à partir de Cole, on a eu une période, à partir de 95, on a changé complètement de groupe. On a rajouté un synthé parce qu'on voulait tenter des trucs, parce qu'on avait envie de changer, parce que le death metal n'était plus à la mode, parce qu'on a envie de grandir, d'essayer des nouveaux trucs, et on s'est lancé dans des choses où on ne savait pas vraiment où on allait, quoi. Et on s'est pas posé de questions, parce que nos vies personnelles changeaient, parce que tout autour de nous avait une autre couleur, une autre saveur, et bien on s'est lancé dans des trucs, et effectivement, avec du recul, on s'est rendu compte qu'on a fait quand même des choses presque des... Je dis pas c'est des erreurs, mais c'est des choses qui nous ont permis de comprendre d'autres choses. On s'est dit, il y a des choses qu'on ne peut plus refaire.
On avait un peu l'impression qu'il y avait aussi un espèce de poids ou une pression du... Ou alors un peu le music business ou le label qui suit sur des trucs, pas du tout, ou c'était vraiment vous qui
vouliez? Non, c'était nous, on a envie de découvrir des nouveaux horizons, envie de toucher à des choses un petit peu qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et seulement, c'est pas poser les vraies questions, on a fait ça naturellement, alors qu'en fait, on aurait dû se dire, attends, on peut faire ça, mais pas sous le nom de Mercedes.
C'est ça, on va dire.
Et à un moment, on est avec le recul, c'est ce que j'ai toujours dit, je dis, on aurait dû changer de nom, quoi. C'était ridicule ce qu'on a fait. On n'aurait pas dû continuer sous ce nom-là, au moins, on savait que c'était un autre groupe, quoi. Ouais. Voilà, on serait revenu aux affaires plus. Mais voilà, on a appris ces choses-là, ça nous a donné des repères dans le temps en se disant, bon, ben voilà, tu vois, cette période, tac, voilà.
Okay.
On sait que ne faut pas revenir dessus.
Donc, dernier disque, Unholy Black Splendor, 2013.
Mm-hmm.
Quoi de neuf? Il y a un gros changement qui est...
On est revenu aux fondamentaux du groupe. En 2010, on a remonté Mercedes pour revenir à un état d'esprit qui était le vrai état d'esprit. On ne voulait pas se poser de questions, on voulait profiter. Sans arrière-pensée, sans penser à Cole, ni Chocobito.
Il y a eu un élément, il y a eu une étincelle pour le redémarrage en 2010.
Il y avait vraiment une étincelle dans le sens où on était vraiment prêt, quoi. Je pense qu'on était vraiment prêt à le refaire parce que ça faisait un moment que... même déjà avant 2010, on se posait souvent cette question. Et les mecs, ils nous disaient, mais putain, c'est trop de temps. T'en rigoles un moment, t'en rigoles une deuxième fois, une troisième fois. Et la quatrième fois, tu commences à réfléchir, tu prends ta gratte, tu commences à refaire des trucs. Tu dis, putain, mais quand même, quoi, putain, ouais, il y a encore des bonnes idées, il y a encore des trucs. Quoi. Et j'ai toujours dit qu'il manquait une espèce de jonction entre plusieurs albums. Il manque des trucs dans notre carrière, et je me suis dit, c'était le moment ou jamais, quoi. C'est pas qu'il y avait vraiment une étincelle ou un moment prédéfini, mais à un moment on avait vraiment envie de revenir pour montrer qu'on avait encore des idées, quoi.
D'accord.
De la même manière, on s'est dit peut-être qu'on va se planter, Coco, hein, on verra bien, mais bon, et tu t'entraînes à rien.
Et enfin, là aussi, c'est peut-être moi qui interprète, mais à regarder la pochette du disque, on se dit ils ont voulu revenir, mais fort, quoi. Enfin, la symbolique est assez forte, non?
La symbolique fait partie du jeu parce que la symbolique, on fait ce style de musique, c'est pas juste pour faire un effet de foire ou un phénomène, quoi. Je veux dire, si on adopte cette attitude parce que on représente notre style et on a envie de montrer jusqu'à quel point on peut aller. C'est pas du black metal ni quoi que ce soit, mais nos idées, notre façon de penser, mes textes, ou ainsi de suite, je les représente haut et fort et j'ai pas peur de le montrer, quoi. Je veux dire, c'est une symbolique qui a toujours accompagné le groupe. Autant nos pochettes que notre façon d'agir, c'est sûr qu'on n'a pas l'aura de certains groupes qui ont des grosses structures derrière et ainsi de suite, mais avec nos petits moyens, on arrive à faire quelque chose pour montrer que voilà, que nos idées, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, elles commencent déjà dès la pochette, elles commencent jusqu'au produit final, est-ce que tu écoutes, quoi.
Quand tu vois un peu les groupes, alors, je sais pas, les... dans sa période de faste, un Dimmu maintenant, ou ce que fait Nergal avec son groupe. Si tu vois ça de l'extérieur, toi, en étant avec l'extérieur et l'intérieur, enfin, artiste, musicien, donc tu vois peut-être le travail, la réalisation, etc. Tu vois ça avec une certaine envie ou
pas spécialement? Pour ce genre d'exemple, pas du tout, parce que j'ai jamais été très fan de la scène de black metal, même si je respecte, il y a quelques groupes que j'aime beaucoup pour différentes raisons, mais. J'ai jamais été là-dedans parce que c'est pas mon école, tout simplement. C'est pas mon école, donc Emperor, bien évidemment, j'écoutais du Emperor, du Mayhem, et les guitaristes, les deux frangins dans le groupe ont plus cette connaissance du black metal. Moi, j'ai jamais été là-dedans parce que ça m'a jamais parlé. Je suis un peu de cette école du trash des années 80. Donc, c'est plus guitariste.
Pour fixer les idées, citer deux trois groupes qui pour toi sont les racines de Mercedes.
Le plus important. Au départ, des groupes comme Slayer dans les années 80, et ensuite, bien évidemment, Pestilence, Morbid Angel,
la
scène américaine, Suédoise aussi un peu, les Grey, les Entombed, et Dismember, tout ça, bien sûr.
Et alors là aussi, je c'est peut-être naïf comme question, à travers des tournées, etc., à un moment donné, vous avez pu croiser ces mecs-là ou...
Oui, bien sûr. Ouais, on a tourné avec Death, on a joué avec Obituary, au Cannibal Corpse. Tiamat, Samael.
J'espère que les mecs qui écoutent, le Death.
Le Death, avec Chuck Schumacher, bien sûr. Di Giorgio, Di Nolan,
Et tout ça, c'est. Enfin, on s'en faire pis des bisounours, c'était. Enfin, ça dépend des personnalités des groupes, mais c'était plutôt amical ou ça se tirait la bourre ou...
Ah non, c'était amical.
Amical, ouais.
On était de loin un groupe, on n'arrivait même pas au talon de Death, quoi. Ouais. Enfin, moi, ce que je représente, on était juste une première partie, quoi. Mais c'était énorme.
Mais traité.
C'était une enfant. Ah oui, traité.
Mais bien traité.
Ah oui, complètement. Ah, complètement.
C'était pas eux, nous, quoi.
Non, au contraire, non, il y avait. Et c'était nous les plus timides, hein, forcément. Parce que t'as
tué avec le enfant, on veut dire.
Tu dis Giorgio, Gino Land, voilà. Tu dis merde, attends. Mais voilà, ces mecs-là, c'était des entités pour nous. Hein. Donc forcément, on a appris beaucoup, quoi. Énormément. On s'est dit, mais c'est aussi simple que ça, la musique, quoi.
Et finalement, donc depuis aussi 2013, t'es le dernier membre fondateur.
Stéphane a dû arrêter à cause de problèmes aux oreilles.
Ah, c'est
il a eu des problèmes graves au tympan depuis des années. Ce problème, ça s'est aggravé avec les concerts qu'on est revenu. Il a commencé.
Donc il, entre guillemets, il a pris des risques pour sa santé sur un Oli. Enfin,
il a pas mis un enregistrement, mais après les concerts, ouais. Il a pris des risques, disons qu'au bout d'un moment, il avait du mal à supporter. D'accord. Ça devenait compliqué pour les oreilles. Il avait ce problème-là depuis les années 90.
Ah oui.
Un concert, il a eu un acouphène qui se transformait un peu en acousie, enfin bref. Quoi.
Ah ouais, c'est la merde.
Bon, il est toujours pas très loin de nous, mais voilà, quoi, il a dû calmer le jeu, quoi, donc il fallait mieux prendre ses décisions.
D'accord. Donc, recrutement d'un nouveau, qui a priori est le frère du.
Ouais, c'est le frère de Mathieu.
Ouais. Ouais. C'était.
Ça,
ouais. Oui, voilà. mais ils sont beaucoup plus jeunes, non? Beaucoup, enfin.
Mathieu, 2-3 ans moins que moi, et Gauthier, il a 30, comme le batteur, ils ont quelques ans, ils ont quelques années de moins que moi. Mais ils sont.
Ils n'ont pas tendance à vouloir accélérer, enfin accélérer c'est difficile, mais.
Non, parce que je suis un peu le gardien de l'image du groupe, le gardien du temple, du son, donc j'arrive à les canaliser, leur faire comprendre. Ils ont un peu ce côté un petit peu foufou parce qu'ils sont un petit peu plus jeunes que moi, mais en même temps, ils ont un côté. Ils savent très bien où ils savent à quoi s'en tenir avec Merciless parce que j'ai défini des paramètres bien précis, quoi. Où je me parle, ils savent très bien, ils savent à quoi s'en tenir.
Là aussi, de façon peut-être assez naïve, je me dis que quand vous décidez en 2010 de revenir, un des plus gros challenges potentiellement pour toi, c'est le chant. Est-ce que c'était un challenge?
Ouais.
Et parce que est-ce que pendant 10 ans, tu avais maintenu le truc ou...
Non, rien du tout.
Non, c'est pas naturel, enfin, c'est un.
J'ai arrêté de chanter comme ça, franchement, pour te dire la vérité, je crois en 96-97. J'avais changé ma texture de voix, enfin ma façon de chanter, parce que je voulais essayer d'autres trucs, bon bref quoi. Et jusqu'en 2010, j'avais pu essayer. Et c'est la première chose que tout le monde m'a posé comme question, quoi. Même le staff, le guitariste, il me dit bon, tu veux refaire Merciless, mais faire Merciless comme au début. Je dis bah ouais, Coco. Et je dis mais le chant, on va voir comment ça se passe, quoi.
Et enfin, tu savais pas toi-même si ça allait passer ou casser, quoi.
Je savais comment il fallait faire, en tout cas.
Ouais, t'as de la technique,
façon de travailler, ouais. J'ai une technique qui est propre, qui est plus basée sur la gorge que le chant habituel que t'entends. Mmh. Et donc forcément, ça m'a demandé un peu de trucs, mais ça très très.
Tu l'as senti passer physiquement au début ou ça a été chaud les quelques jours qui suivent ou ouais.
Ah au début, ouais, au début le mec il me disait putain, on dirait que t'as la voix de la palmesse.
D'accord.
Mais je veux dire, il voulait me dire par là que j'ai pas une voix de death metal, j'ai une grosse voix de mais je lui dis bah c'est normal, quoi, j'arrive pas encore à gueuler.
Ouais, voilà.
Et en fait j'avais j'ai mis deux mois à me remettre dans le truc. Et une fois que j'ai retrouvé juste les 2-3 petites habitudes que j'ai eues pendant des années, bah, je suis revenu tout seul. Quoi.
Ok. Si on prend toute la période Anomaly Back Splendor, enfin, la compo, l'enregistrement, les concerts donnés, est-ce qu'il y a un souvenir en particulier de cette période-là qui pour toi émerge? Il y a un truc qui t'a marqué sur ces quelques années?
Un truc. Oui, plein. En fait, un truc très simple, déjà d'une, de ressortir un album déjà. Et puis de se rendre compte qu'en fait qu'on revient, on a remonté Mercedes en fin 2010, début 2011, et 7 mois après on avait déjà des concerts. Alors qu'on avait juste les morceaux des années 90 à refaire, machin, et en fait on s'est préparé une setlist qui correspondait à Mercedes des débuts des années 90. Et
avec l'inquiétude de se dire ça va intéresser personne.
Ben, on savait pas en fait. Et on avait tous ces concerts de prévu, il y avait un petit groupe à Fashion Gate du Sud qui nous avait dit tiens, on met des trucs ensemble et tout, bon ok. Et la première chose qu'on fait, le premier concert, on enchaîne 3-4 dates de suite. Belgique, France, Hollande. Je me dis, mais putain, c'est pas possible, les mecs, ils sont pas contents. Et en fait, la première date, je m'en souviendrai toujours, c'est à Lille, dans une petite salle, et tout le monde est venu, quoi. Par curiosité, je sais pas, ou par truc. Et les mecs, ils ont dit, mais putain, mais on dirait Mercedes en 1991, quoi. Et là, je me suis dit, ah, bah, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit truc à faire, quand même.
Donc, en tout cas pour le premier concert, c'est beaucoup de mecs qui écoutaient il y a 20 ans.
Et d'autres. Il y a les deux, parce que forcément.
Et les enfants d'eux, ou les.
Pas forcément les enfants, mais des générations, ouais. Ouais, où on leur a dit tiens, il y a un groupe de trucs, machin.
D'accord.
Ils s'attendaient à quelque chose, et voilà.
Et toi, tu dirais, pour. En sortie de ce concert, c'est un énorme kiff ou.
Ouais,
c'est. Oui, c'est.
Mais je vais te dire honnêtement, même à l'heure actuelle, avec l'âge, avec un peu de recul, un peu plus de. J'arrive un peu plus faire la part des choses. Tous les concerts que je fais depuis 2010, franchement, j'en profite à fond, quoi. Parce que d'une, on vit qu'une fois. Parce que deux, il faut profiter de la vie. Parce qu'on a du recul, on est plus âgé. Et franchement, je profite de tous les concerts qui passent. Et franchement, c'est un vrai kiff. J'ai presque la peine de penser à l'époque, on faisait les cons, on ratait les concerts parce qu'on faisait n'importe quoi par moment. On était jeunes et foufous. On était bourrés, machin, les trucs, enfin tu vois.
Bah, fallait peut-être vivre, ouais, fallait cette partie-là.
Et à un moment, tu te dis merde, putain, et là, maintenant je profite vraiment de chaque instant. Je me dis qu'il y a toujours des mecs dans la salle qui ont envie de découvrir ça, donc voilà.
Pathetic Divinity sort chez Kaotofilm.
Mm-hmm.
Comment ça s'est fait avec eux? C'est eux qui vous ont approché, c'est vous vers
on
eux.
On le connaissait depuis un moment déjà, et puis quand on a voulu. On commençait à enregistrer cet album. En fait, on avait commencé à démarcher Chaotoxine bien avant, mais comme ça, sans plus, tu vois. Et entre-temps, on a eu des propositions de labels beaucoup plus importants sur le papier, quoi. Et on a préféré faire avec Chaotoxine parce qu'il y a un côté rapprochement, il y a un côté humain qui est beaucoup plus présent. C'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui nous aime beaucoup, qui a aimé Mercedes à ses débuts et qui, en fait, a voulu vraiment donner du mal pour nous. Parce que il pense que c'est une vraie référence pour son label. Et nous, pareil, quoi. Nous, on estime qu'il fait du très très bon boulot. Et puis voilà, quoi, tout simplement, on essaie d'avancer ensemble. Et puis voilà, on a toujours un interlocuteur au téléphone. Et puis voilà, ça nous sert beaucoup, quoi.
D'accord. En général, qu'est-ce que tu peux nous dire des sessions d'enregistrement, Vinis? Combien de temps ça vous a pris déjà?
Oh, ça nous a pris. Préparer l'album, on a mis de janvier 2015, on va dire en gros, hein, ouais. À octobre. Et puis on a mis 2 mois et demi, mais pas.
Non, bien sûr, pas raisonnable.
Je veux dire, période, hein, on se mettait pas la pression. Mais chaque fois, on a mis la batterie, on a mis en boîte 3 jours, on a enregistré la batterie dans. Parce qu'on a fait ça dans plusieurs studios en fait. On a enregistré la batterie dans le premier studio, on avait enregistré Abject Offerings, à Mulhouse, Fastat.
Ouais.
Et le reste, on l'a fait dans un autre studio à côté d'une Matrouf. On a mis les guitares, on a mis les trucs et proportionnellement, on travaillait avec le mec qui allait nous mixer. On a travaillé les trucs, mais voilà, quoi, tout était déjà préparé en amont.
Et finalement, est-ce que vous êtes du genre un groupe à sortir 25 morceaux pour les meilleurs mois sur l'album?
Non,
n'apparaît sur l'album que ce qui a été posé.
Tout ce qu'on fait en fait, et moi je me limite à ça, c'est que c'est peut-être un défaut par rapport à d'autres groupes, mais tout ce que je fais doit être intense et je veux pas faire de rajout, quoi. Il faut pas qu'il y ait de remplissage. Je préfère un album de 30 minutes mais intense qu'un truc qui va se rallonger parce que le label te dit ouais, il faudrait quand même 44 minutes quoi. Non mais j'ai rien à branler de ça. Moi j'ai une imagerie qui est toujours la même, je le répète à longueur de journée. Moi quand j'étais jeune, un jour il y a un album qui s'appelait Raining Blood de Slayer, il durait 28 minutes. Je l'ai écouté pendant, encore aujourd'hui, quoi, j'ai écouté pendant plus de 20 ans, quoi. Et je l'ai usé, j'en dis, on rachetait 3 ou 4 tellement je les ai usés, ces albums. Et je me dis, mais c'est ça, ma conception de la musique. Du début à la fin, bim, pas de temps mort, t'envoies, c'est tout.
D'accord.
Dans le bon sens du terme.
Ouais, bien sûr. Alors, une petite question un peu bizarre, peut-être. Depuis le début du groupe, le fait d'être un groupe alsacien, donc pris entre Suisse et Allemagne, c'est un avantage ou un inconvénient?
Ni l'un ni l'autre, nous ça nous a, oui, ça nous a aidé plus ou moins. Le fait d'être en Mulhouse, ça nous a plus permis d'aller voir des super concerts que d'en faire, forcément. Mais après, oui, ça nous a ouvert quelques portes pour pas mal de concerts, c'est vrai. Mais sans plus, quoi. On reste quand même ancré France, quoi. Après, on a eu une autre opportunité, c'est qu'on a signé chez Century Media à une époque. Et voilà, donc l'Allemagne à côté nous a permis beaucoup plus de trucs, d'interactions avec ce pays, quoi. Oui, c'est un petit avantage, oui. Un petit avantage.
D'accord. Ça permet d'aller à Prattel.
Dans les années 90, on est aux crèches et après à Prattel.
Ouais, bah oui. Ça permet de voir toutes les tournées qui passent en France.
Oh putain, tu m'étonnes. Il y en a eu.
Ah bah oui, ça.
Il y en a eu.
Et si c'est plus grand, ça va au Saint-Jacob Stadium à la balle.
Oui, mais bon, c'est encore. Ça, c'est quoi là? Ça, c'était après ça.
Oui, oui, oui.
C'était aux crèches, les buts. Allez, qu'est-ce qu'il y a ce soir? On se boit la gueule. Quoi, la Creator? Bim, allez hop là. Ça, c'était une autre époque.
Alors justement, j'en parlais précédemment, l'aspect visuel. Donc il y a toujours là aussi sur Pathetic Divinity, il y a une référence à la religion, enfin un espèce de personnage qui est dans un évêque. Mmh, voilà. Voilà. Comment en général t'abordes cet aspect-là visuel?
Bah,
t'as une idée en tête et puis tu essaies de voir et tu choisis un artiste et tu essaies de voir comment il met ça.
Non, parce qu'en fait l'artiste c'est tout simplement un vieux pote à moi qui vient de Mulhouse. Qui était un gars qui a dessiné dans les premiers fanzines, je sais pas si t'as connu ça quand t'étais plus jeune, t'as quel âge toi?
J'ai 40 ans.
Alzard, t'as connu ça?
Quelques numéros, ça me dit quelque
chose. Ouais, voilà, il dessinait là-dedans, oui, c'est un vieux pote à moi, quoi.
Ouais.
Et en fait, voilà, de fil en aiguille, tarac, machin, je savais qu'il dessinait, il s'est fait arrêter pendant longtemps. Et un jour, sa femme m'a dit, ouais, il me s'est remis à la peinture. Je dis, putain, tu es pas fier. Nous, on voulait vraiment un dessin, quoi. On voulait. Pour cette pochette, on voulait vraiment un dessin comme dans les années 90, 80, quoi. C'était revenir à des bases, à des fondamentaux pour ça, avec tout ce qui s'engendre comme détail, et avec un truc qui correspond au texte, pas juste un photomontage de Photoshop pour créer une belle arborescence sur la pochette, très abstraite, qui veut presque souvent rien dire, mais bon, ouais. Et on voulait vraiment retourner à cet esprit un peu pochette, vinyle, que tu tiens dans les mains et truc. Et on a réussi à créer ce truc-là avec David, le concepteur de la pochette, de fil en aiguille. Et
mais puis, c'était pas lui qui avait fait Unoli?
Non, pas du tout. Non.
Là, c'est un style totalement différent.
Ouais, complètement. Unoli, c'était les mecs de Fortifem, qui s'amusent à faire des affiches, qui font des tatouages et tout comme ça.
Mais chaque fois, c'est toi qui donne une idée de base d'une étincelle et puis mec qui.
En général, je donne 2-3 pistes et je laisse libre cours. Et une fois que je reçois des essais.
Ben, et là, par exemple, c'était quoi tes pistes?
Ben, c'est de procession
du pire, hein, enfin, je sais pas trop. Enfin, espèce de procession de personnages du pire.
C'est une espèce de. C'est ce que je veux dire, c'est une espèce de procession, la fanfare des sombres, quoi. Tu sais pas où ça va.
Ouais.
C'est le mec au milieu de la chaise, il est en fin de mission. Soit cette espèce de représentation du dogme religieux qui va vers le n'importe quoi, ben, c'est un peu la symbolique, le chaos à l'arrière, et puis on sait pas où on va, quoi, parce que la religion a pris tellement de place, et puis voilà, quoi, c'est un peu ça la symbolique.
D'accord. Autre élément, a priori, donc là, avec KO, KO Toxin, l'album sort en différentes versions, une version limitée, etc. Mmh. Un, est-ce que c'était important pour vous? Et toi, en général, même en tant qu'amateur, tu es quand même collectionneur de l'édition limitée?
J'aime ça, je suis pas collectionneur, non, pas du tout.
Enfin, mais... t'aimes ça en général?
Ouais, j'aime ça, ouais. Et en plus, on l'a jamais fait, quoi. Digipak, oui, mais par contre, box, machin, on s'est dit, tiens, putain, on va essayer de se faire plaisir. On...
Non, mais là, les gens se rendent pas forcément compte, mais c'est un coup pour vous. C'est-à-dire que là, vous avez mis aussi des thunes sur la table pour sortir les
objets, non? Non, c'est le label qui gère le. Ouais. Le truc quoi, nous on a eu un coup pour l'enregistrement par contre, ouais. Oui ça c'est vrai.
Oui parce que vous livrez les bandes terminées, le truc est...
Exactement, d'accord. Lui s'est chargé de tout le reste, c'est le ça. Package et tout ça, mais c'était une volonté qu'on a mis dès le départ, on avait dit ce serait bien qu'on sorte des produits un peu différents.
Ah, il y a du 100 exemplaires, il y a du super
ouais, 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 ouais. Et puis voilà, et déjà pour se faire plaisir à nous, faire plaisir au public, ceux qui achètent, et se dire si l'album vaut le coup en plus, machin, tac, bah voilà, c'est un petit plus. Et moi je me dis toujours, peut-être quand tu payes un album, tu es quand même content d'avoir des trucs en plus, machin, de sous différents formats. Et puis voilà, quoi, nous ça fait 30 ans qu'on fait le groupe et je me suis dit c'est le bon moment pour sortir vraiment un produit.
Vous sortez en vinyle?
Il est en vinyle aussi, ouais. Gatefold, ouais.